Et nous restons dans un esprit de prière. Ce pourquoi nous avons prié pour Corinne, c'est quelque chose qui est là pour elle depuis, qui était là depuis des années. Quelque chose de profond. Merci pour vos prières. Et voilà, nous nous associons les uns les autres dans cette prière pour elle, mais aussi pour les uns et les autres. Le Seigneur sait la situation de chacun. Il sait la situation de chacun. Il intervient dans vos vies. Il veut agir par son esprit. Il y a des choses qui ne veulent pas que nous connaissions cette libération. Notre chair même ne veut pas connaître cette libération. Elle veut se rester dans la peur. Mais le Seigneur est venu nous libérer. Et parfois, il nous met aussi devant des situations tellement pour nous faire échapper à la mort, pour que nous prenions position. Lui, il se tient ferme. Il se tient ferme pour toi. Même là où toi, tu pourrais avoir peur, ne pas désirer sa libération, vouloir peut-être même parfois retourner en arrière, lui, il se tient ferme. Il connaît trop bien l'enjeu. Plus que nous-mêmes. Nous, ça nous dépasse. Lui, il sait exactement. Il t'a créé pour la vie. Oui, je prie que ce matin, Seigneur, nous recevions aussi ta parole. Pas une parole humaine, mais ta semence, Seigneur. Ta semence qui vient libérer nos cœurs. Je prie pour des révélations. Je prie pour des nouvelles compréhensions en toi. Seigneur, Jésus, Saint-Esprit, que tu viennes éclairer maintenant. Amen. On a vécu cette sainte scène où voilà, la sainte scène, comme il a été dit, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. Et en ce moment, dans l'Église, nous avons à cœur de nous pencher sur le retour de Jésus. Il y a eu des moments dans l'histoire de l'Église où cette question du retour de Jésus, elle a été plus prégnante, plus importante que d'autres fois. Dans les temps où, par exemple, c'était les premiers siècles de l'Église, il y avait la persécution. Là, les chrétiens pouvaient dire, mais Jésus, il va revenir tout de suite. Jésus, il va revenir tout de suite. Dans les temps de la Réforme, là, les protestants, les huguenots qui étaient persécutés par l'Église catholique romaine pouvaient dire, mais c'est le pape qui est l'antichrist. Jésus va revenir bientôt. Voilà, il y a eu différents moments comme ça, et puis à un moment, ça s'endort un petit peu, et puis à un autre moment, ça revient. Et je crois que nous sommes dans un temps où aujourd'hui ça revient. La question, on a toujours à se la poser. Mais là, ça revient de manière plus forte, et pas seulement dans l'Église. Pas seulement dans l'Église, ça revient aussi. Il y a des questions qui se posent dans le monde par rapport à tout ce qui nous entoure. En tant que chrétien, quand on connaît la parole, par exemple, quand on entend parler du deal du siècle, avec cet accord de paix, on peut se poser la question, mais cet accord de paix, c'est quoi? Est-ce que c'est la paix dont il est question à un moment dans l'épître aux Thessaloniciens, qui va précéder la venue du retour de Jésus, à un moment où les hommes diront « paix, sécurité ». Mais ce n'est pas la paix que Dieu apporte. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que ça ne l'est pas? Moi, je ne peux pas dire oui. Je ne peux pas dire non. Je reste attentif. C'est important que nous restions attentifs. Je dis qu'il y a des questions qui se posent dans le monde. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette série sur Netflix qui s'appelle Messia. Certains l'ont vu. On va savoir qui a Netflix ici. Nous, on l'a vu. Hein. Vous pouvez lever la main. Oui, et alors, c'est une série qui a fait beaucoup de polémiques. Alors, moi, je l'ai trouvée très intéressante parce qu'elle joue sur l'ambiguïté du début à la fin. Finalement, on est tout le temps dans cette question, mais est-ce que c'est le Messie? Ou est-ce que ça l'est pas? À un moment, on peut dire, ah, mais oui, c'est le Messie. Et à un moment, on peut dire, mais non, c'est pas vrai, c'est un imposteur. Voilà, bon, ça, c'est l'œuvre cinématographique. Mais ce que moi, j'ai trouvé surtout intéressant, c'est que du coup, on se pose des questions, on pense à la parole, mais qu'est-ce que la parole dit sur le retour de Jésus? Qu'est-ce que la parole dit sur le retour de Jésus? Et aussi, on se rend compte qu'il y a des questions qui se posent dans le monde aussi. Il y a des questions qui se posent dans le monde. Mais voilà. Qu'est-ce que la parole dit du retour de Jésus? Et c'est ce dont je voudrais parler ce matin. Qu'est-ce que la parole dit du retour de Jésus, comment et quand cela doit-il se faire? Il y a eu des débats houleux dans l'Église, il y a même eu des divisions, des déchirements, des divisions d'Église hein, autour de cela. Et il y a des choses sur lesquelles on peut dire qu'on a des certitudes à partir de la parole de Dieu. Il y a des choses où on est certain, puis il y a des choses sur lesquelles on a plutôt des convictions. Une certitude, une conviction, c'est pas la même chose. Ou le, voilà, on à partir de la parole, on se dit « Ah mais on a telle compréhension ?» Et ça vient fort dans notre cœur. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, ce sont des convictions. Et il y a diverses convictions. Parce qu'il y a diverses manières de comprendre la parole. Alors, on espère que ce soit éclairé par le Saint-Esprit. Mais voilà, le fait est, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on est en accord. On est sûr. Dans le monde évangélique. Puis il y a des choses sur lesquelles on n'est pas en accord. Voire on s'est déchiré. Et je vais répondre à comment et quand. Mais à partir de ce sur quoi nous sommes d'accord et ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Pour ensuite, finalement, voir, mais quelle est la place que moi je donne? Quelle est la place que moi je donne au retour de Jésus dans ma vie? Parce que c'est ça le plus important. Alors, sur quoi sommes-nous d'accord? Il y a deux choses sur lesquelles nous sommes d'accord. C'est sur les conséquences finales, ce sur quoi va ouvrir le retour de Jésus, et c'est sur le comment. Comment ça va se passer? Comment ça va se faire, plutôt? Sur les conséquences finales, c'est ce sur quoi on est d'accord, c'est qu'à partir du moment où il y a le retour de Jésus, il y a le jugement des incroyants, ceux qui n'ont pas mis leur vie en lui, il y a la récompense finale des croyants en Christ, qui vivront éternellement avec lui, qui vivront avec lui, sous de nouveaux cieux et sur une nouvelle terre. Tout sera renouvelé et d'une manière où Dieu règnera, il n'y aura plus ni péché, ni souffrance, ni tristesse. Ça, nous sommes tous d'accord là-dessus. Et nous sommes tous d'accord sur le comment. Le retour de Jésus se fera de manière soudaine et inattendue, de manière visible et de manière personnelle et corporelle. Donc ça, du coup, Messia, ça va pas sur Netflix. Il sera soudain et inattendu. Par exemple, je vais prendre beaucoup de passages dans Matthieu 24, mais il y a plein d'autres passages qui en parlent, où à un moment, Jésus, quand il répond à cette question des disciples, « Mais quel sera le signe de ta venue ?» Jésus vient dire toute une série d'événements qui doivent se passer, qui sont plus ou moins proches dans le temps de son retour. Et à un moment, il vient dire, quand là, il vient parler vraiment de son retour, que ça arrivera à un moment où on ne s'y attendra pas. Comme du temps de Noé, où il y a eu le déluge, et tout le monde se mariait, tout le monde vaquait à ses occupations, ça arrivera dans un temps comme ça. On ne s'y attendra pas. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et il rajoute, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et vous avez plein d'autres passages qui en parlent. Je vous laisserai le PowerPoint pour que vous puissiez aller voir vous-même. Le retour de Christ sera visible. Il est dit dans Apocalypse que le Seigneur viendra des nuées et tout œil le verra. Tout œil le verra. Ça pouvait paraître incompréhensible dans les premiers siècles, ce texte-là. Mais aujourd'hui, quand on voit les nouvelles technologies, quand on voit les écrans, c'est déjà plus compréhensible. Alors, est-ce que c'est comme ça que ça va se faire? Je sais pas. Mais tout œil le verra. Tout œil. Il n'y a personne qui ne le verra pas. Le retour de Christ sera personnel et corporel. Dans certains milieux chrétiens, autres qu'évangéliques, il y a cette idée que le retour de Jésus, en fait, c'est la venue de son esprit dans le sens de son enseignement. Son enseignement qui vient progressivement impacter, imprégner les uns, les autres. Mais la parole est claire. Jésus va revenir en personne. Il va revenir en personne, de manière corporelle, avec son corps de ressuscité. C'est dit dans Actes, quand les anges disent aux disciples qui sont en train de regarder dans le ciel, alors que Jésus est monté au ciel, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et Jean, à un moment, peut dire, dans la première épître, ce que nous devons être n'a pas été encore manifesté, c'est-à-dire de ressusciter, d'avoir des corps de ressusciter. Mais Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous allons voir Jésus et nous allons être transformés. Nous le verrons tel qu'il est. Donc ça, pour le comment, ça va. Comment ça va ? Ça va bien ? Pour le comment, on est d'accord. On a des certitudes. On a des certitudes. Mais pour ce qui est du quand, pour ce qui est de la chronologie des événements, là, du coup, c'est plus des convictions où chacun se partage selon les unes ou les autres. Une conviction, même si elle est issue de la parole, elle n'est pas la parole. La parole, c'est la parole. La parole nous dépasse. Et le Seigneur, et quelle que soit notre conviction, nous sommes appelés à respecter la parole en considérant qu'il y a des passages qui pour nous ne sont pas clairs, qui pour notre intelligence ne sont pas clairs. Après, voilà, c'est par révélation que les choses viennent. Mais voilà, il y a des choses où, du coup, on va essayer d'interpréter. Notre interprétation n'est pas à la parole. Il y a des filtres, même si, voilà, il y a la lumière du Saint-Esprit en nous. Il y a des filtres. Et, quelle que soit notre conviction, nous sommes appelés à respecter la parole en prenant le texte dans son intégralité. Il y a des passages qui disent telle chose, il y a des passages qui disent telle autre chose, et ça peut nous sembler, à nous, être humains, contradictoires. Ça ne veut pas dire que ça l'est pour Dieu. Mais c'est avec cela que nous avons à avoir une conviction en considérant, en respectant la parole de cette manière. Et à côté de cela, le Seigneur nous appelle à nous faire une conviction. Il dit à l'église de Laodicée, voilà, tu es tiède. Sois chaude ou sois froide, mais pas tiède. Il ne nous demande pas d'être tiède, il nous demande d'avoir une conviction. Alors nous, des fois, on peut avoir peur de se tromper. Donc du coup, on se dit, ouais, bon, je verrai. Mais non, c'est pas ce que le Seigneur nous dit. La question du quand, c'est, on pourrait le dire comme ça, c'est Christ pourrait-il revenir à n'importe quel moment ? Christ peut-il revenir à n'importe quel moment ? Parce qu'il y a des tests qui disent, bah oui, le retour de Jésus, il est imminent, il peut revenir à n'importe quel moment. Par exemple, vous aussi, soyez patients, il y a ce que dit Jacques, il y a aussi ce que dit la parole en disant que son retour va être soudain et inattendu. Mais il y a aussi ces autres passages, ce que dit Jacques. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Le juge est à la porte. Et il y a d'autres passages, il y a des passages dans Apocalypse où par trois fois Jésus vient dire « Je viens bientôt, je viens bientôt, je viens bientôt. » Mais quand ? Bientôt. Le retour de Jésus est imminent, c'est ce que nous disent ces textes. Et en même temps, il y en a qui pourraient dire non, Jésus ne peut pas revenir à n'importe quel moment parce qu'il y a des signes qui doivent s'accomplir, il y a des conditions qui doivent s'accomplir dont il parle à divers endroits, en particulier dans Matthieu 24, où à un moment il dit, un des premiers signes, c'est qu'il faut que l'évangile soit prêché à toutes les nations. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Il faut aussi qu'il y ait la venue de l'homme de l'impiété ou l'homme du péché qu'on associe à l'Antichrist ou à la bête de l'Apocalypse, dans Apocalypse 13. Dans Matthieu 24, à un moment, Jésus vient dire « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, et ça rappelle ce passage dans 1 Thessaloniciens 2, où Paul vient dire, pour ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Donc il faut que vienne cet homme, l'Antichrist. L'autre signe, l'autre condition pour qu'il y ait le retour de Jésus, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Dans Matthieu 24, quand Jésus a dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, Là, il dit, voilà, va y avoir un temps de grande détresse. Malheur aux femmes qui allaiteront dans ces temps-là. Malheur aux femmes qui seront enceintes dans ces temps-là. C'est pour dire que ça soit vraiment, ça sera compliqué parce que comment fuir à ce moment-là? Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Alors après, il y a différentes compréhensions. Est-ce qu'il vient au début de cette grande tribulation, juste au moment où ça commence? Est-ce qu'il vient au milieu? Est-ce qu'il vient après? Il y a différentes compréhensions. Je ne vais pas rentrer là-dedans, on verra plus tard. Mais ça, c'est un des signes. Un autre signe, c'est qu'il y aura des faux prophètes qui opéreront des signes et des prodiges. Toujours dans Matthieu 24, Jésus dit « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. » Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Il y aura aussi des signes dans le ciel. Et Jésus, dans Matthieu 24, il dit que ce sera après cette grande tribulation. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et des puissances des cieux seront ébranlés. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. C'est quelque chose de phénoménal. On n'a pas encore vu quelque chose comme ça. Et enfin, il y a le salut d'Israël, la conversion nationale d'Israël, dont il est question dans Romains, par exemple, où Paul dit « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » C'est ce qui fait référence à la prédication de l'évangile à toutes les nations. « Et ainsi, tout Israël sera sauvé. » Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et à un moment, en Matthieu 23, juste avant Matthieu 24, où Jésus parle de tout cela, il dit « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient » jusqu'à ce que vous me reconnaissiez comme Messie. » Donc voilà. Alors là, on pourrait se dire, mais... Donc il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Oui, non. Et on pourrait se dire, mais Seigneur, pourquoi tu as fait les choses comme ça? Pourquoi tu as fait les choses comme ça? Et ça revient à se poser la question de quelle place le retour de Christ prend-il dans ma vie? Pourquoi Jésus n'a pas choisi que l'on sache les choses plus clairement ou qu'on ne les sache pas du tout? Il y a une tension entre ces deux textes et ça, certains vont essayer de le résoudre de différentes manières. Il y en a qui vont dire, mais Jésus ne peut absolument pas revenir à n'importe quel moment parce que voilà, ces signes ne se sont pas accomplis. Mais du coup, ça ne fait pas justice au texte qui parle d'un retour imminent. Il y en a qui vont dire, mais les signes se sont déjà accomplis, finalement, au moins pour la plupart d'entre eux, parce que dans l'histoire, on a vécu des moments, comme par exemple des moments de grande persécution. Ça devait être la grande tribulation. Donc Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Sauf que les signes dont il est parlé, ça parle de signes d'une grande ampleur. Et notamment pour le signe céleste, ça, c'est qu'on peut dire que c'est quelque chose vraiment qu'on n'a pas vu. Tel qu'il est décrit, en tout cas. Il y en a qui vont dire, voilà, le retour de Jésus va se faire en deux fois. Il va revenir d'une manière secrète où il viendra chercher son église, puis il reviendra de manière publique avec son église. Les textes ne le disent pas explicitement. C'est une compréhension que l'on essaye d'avoir aussi. Je ne dis pas que le texte ne le dit pas. Je ne dis pas que cette compréhension, elle est fausse. Mais c'est une compréhension qui n'est pas explicite dans le texte. Et il y en a qui disent que ces signes, il est probable qu'ils ne se soient pas accomplis, mais c'est néanmoins possible. Donc Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Mais pourquoi est-ce que Jésus choisit de nous dire les choses de cette manière? Je crois que c'est pour deux raisons. C'est pour que nous puissions être dans l'ardeur de son retour, parce qu'effectivement nous ne savons pas quand est-ce qu'il revient, mais tout en étant engagés, dans cette vie. Nous ne savons pas quand est-ce que Jésus va revenir. On ne peut pas dire quand. Et prétendre le contraire en supposant une date, c'est désobéir à l'Écriture. Mais de la même manière, on ne peut pas dire, bah voilà, je sais pas quand est-ce que Jésus il peut revenir à n'importe quel moment, donc je ne m'engage pas dans cette vie, je ne m'engage pas dans un projet de 10 ans, parce que je sais pas si je vais arriver au bout des 10 ans. Mais cela aussi, c'est faux, puisque Jésus nous dit qu'il viendra un moment, voilà, où nous tous nous vaquons à nos occupations. Il y a une urgence climatique, et c'est important de s'en occuper. Il y a des combats politiques qui sont importants de la part des chrétiens, où il y a les valeurs de l'évangile à mettre en avant, où il y a des conversions qui sont en jeu. Où est, quelle place tu donnes au retour de Jésus dans ta vie? Ne pas s'engager dans la vie parce qu'on se dit que le retour de Jésus est imminent, c'est aussi une désobéissance à l'Écriture. Je crois que Jésus nous dit les choses de cette manière pour que nous puissions rester dans l'ardeur de son attente, dans la confiance, dans la foi, dans l'esprit, pas dans quelque chose d'intellectuel, dans la foi, et que nous soyons engagés dans cette vie. Vivre en fonction du retour de Jésus, c'est aussi garder une vision réaliste et biblique de ce monde. Ce monde, la destinée de ce monde, c'est de se finir. C'est de se finir. Et quand Jésus va revenir, ça changera tout. Quelle place tu donnes? Quelle place tu donnes au retour de Jésus dans ta vie? Es-tu dans l'ardeur? Es-tu dans l'ardeur de l'attente du retour de Jésus? Es-tu dans cette ardeur? Cette ardeur, à quoi on la voit? On la voit à l'amour que l'on a pour les autres. On la voit à l'aspiration qu'on peut avoir pour la sanctification. On la voit aussi à notre volonté d'annoncer l'évangile. L'ardeur à attendre le retour de Jésus, en fait, c'est comme un indicateur de notre santé spirituelle. De la même manière, pour savoir notre santé physique, on va faire une prise de sang, on va regarder les constantes, on va prendre la température, on va regarder le pouls pour savoir quelle est la vitesse du cœur. Est-ce qu'il bat trop vite? Est-ce qu'il bat de manière qui convient, qui dit que je suis en bonne santé? Eh bien, l'ardeur à attendre le retour de Jésus, c'est notre pouls spirituel. C'est notre pouls spirituel. Es-tu en bonne santé spirituelle? Quelle est ta santé spirituelle? Si tu prends ton pouls spirituel, qu'est-ce que ça dit? Il ne s'agit pas de se culpabiliser, soi, ou de culpabiliser l'autre. Nous sommes dans un chemin avec Dieu. Dieu nous accompagne dans ce chemin pour où il nous place devant sa parole, où il nous place devant cette vérité de son retour, avec son amour, avec sa grâce. Alors que le Seigneur puisse te conduire. Nous allons prier. Oui, Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Je veux te remercier pour la manière dont tu nous as dit les choses dans ta parole. Je veux te remercier par rapport au fait que l'on ne peut pas se prononcer par notre intelligence. Parce que si tu as fait les choses comme ça, c'est parce que tu sais que c'est bon. Parce que tu as décidé que c'est bon. Tu sais ce qui est bon pour nous. Tu sais ce que nous avons besoin de savoir certainement. Est-ce que nous n'avons pas besoin de savoir parce qu'il faut laisser la place à la foi? Parce qu'il faut laisser la place à la confiance en toi. Parce que c'est ce qui nous fait grandir spirituellement. Parce que c'est ce qui nous fait donner la place à ton Saint-Esprit. Oui, je nous remets tous, chacun d'entre nous, à toi. Qu'on puisse chacun se placer devant cette vérité de ton retour et prendre maintenant là son pouls spirituel. Où est l'ardeur? Es-tu dans l'ardeur de son attente ce matin? Es-tu dans l'ardeur de l'attente de son retour dans ta vie? Et je te remercie, Seigneur, pour ces signes que tu nous donnes, ces signes qui accompagnent ta venue. Ils ne sont pas là pour nous dire, pour nous permettre de donner une date, parce qu'on ne peut pas connaître ni le jour ni l'heure, et ce n'est pas à nous de le connaître, tu nous le dis. Mais ils sont là pour nous rendre attentifs. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes ta parole pour qu'on ne soit pas égarés. Et je prie, Seigneur, que nous soyons tous ici, ancrés dans ta parole. Je prie dans le nom de Jésus que nous soyons tous ancrés dans ta parole. Saint-Esprit, viens nous ancrer dans ta parole. Viens nous donner soif de ta parole. Pour que nous soyons dans cette ardeur de l'attente de ton retour. Seigneur, éveille la flamme. Embrasse-nous, Seigneur. Embrasse-nous. Là où il y a des feux qui sont éteints, je proclame dans le nom de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus que tu viens embraser par ton esprit. Viens embraser les cœurs. Viens donner une soif de toi, une soif de ta parole. Que nous puissions nous tenir devant le Seigneur quelques instants encore. Tu es là et tu te rends compte que tu ne t'es pas déterminé, que tu n'as pas fait véritablement de choix. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, voilà, je te place devant ma parole. Je te place devant la vérité que je suis. Et je t'engage à faire un choix. Je t'engage à me choisir. Et je suis avec toi dans ce choix. Tu n'es pas tout seul. Je suis avec toi. Mais choisis. Ne reste pas tiède. Ne reste pas tiède. Ouais, Seigneur, je te loue. Je te remets toute notre église, toutes les personnes qui sont là dans ce cheminement. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous accompagnes par ta grâce et ton amour. Alléluia. Amen.